La croissance verte n'existe pas.
Alors la réponse est non. La réponse est non, non, non.
We will have to change. We will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour, bienvenue dans les décroissants tout chauds. Vaincre l'apathie climatique. Un article de Per Espen Stoens, psychologue et conférencier norvégien, extrait du grand livre du climat rédigé sous la direction de Greta Thunberg. À la lecture des derniers rapports du GIEC, il est difficile de ne pas penser « c'est catastrophique, il est temps que les gens se réveillent ». Mais mon anxiété est loin d'être partagée par mes amis et mes collègues, pour le dire gentiment. Au moment des années 2000, je me suis interrogée. Pourquoi les gens n'ouvraient-ils toujours pas les yeux, alors même que la science devenait de plus en plus claire, plus confiante, plus alarmante? En décembre 2009, je me suis rendue au sommet pour le climat de Copenhague, où j'ai participé à ce qui était alors la plus grande manifestation pour le climat au monde. Nous étions près de 100 000 personnes, à arpenter les rues dans le froid en direction du centre de conférence. L'heure d'agir est venue, avons-nous crié à tue-tête, en vain. Les négociations ont échoué. Peut-être ne fallait-il pas se contenter de crier. Mais que faire? J'ai consacré cette année à chercher la réponse à cette question, passant en revue les expériences, les livres, les articles universitaires évalués et publiés, les idées des philosophes et des groupes de réflexion. J'ai découvert que dans le cas du changement climatique, nous, les humains, avons tendance à ériger des barrières mentales qui nous empêchent de nous engager. J'ai résumé cela sous une formule, les 5 D de la défense psychologique: distanciation, désastre, dissonance, déni et identité. Le D de identité. La distanciation psychologique, c'est notre tendance à voir le changement climatique comme une chose abstraite, invisible, lente et lointaine. Le désastre fait référence à la façon dont nous décrivons le changement climatique tel une catastrophe, impliquant des pertes et des sacrifices colossaux. Cette description suscite tant de craintes et de culpabilité qu'après un temps, cela se transforme en accoutumance et en évitement du sujet. D'un autre côté, la dissonance cognitive entre nos actes, conduire des voitures, manger de la viande, prendre l'avion, et nos connaissances, les émissions de CO2 ravagent le climat de la planète, nous incite à nous justifier plutôt qu'à changer réellement nos comportements. Ensuite, le déni, qui ne se limite pas au rejet de la science du climat, mais qui efface également au quotidien tout ce qu'on en sait, afin de pouvoir continuer à vivre, comme si nous n'avions jamais entendu les données qui dérangent. Enfin, la barrière de l'identité fait référence à la façon dont les politiques du climat sont susceptibles de menacer l'identité, la liberté et les valeurs de chacun. Si je me sens attaquée par les activistes du climat, j'aurais tendance à les repousser. Réunis, ces 5 D expliquent pourquoi les gens n'agissent pas, bien qu'ils aient à de multiples reprises été exposés aux faits. Et ces 5 lacunes du cerveau humain montrent pourquoi il est compliqué pour nous de passer de l'alerte climatique à l'action en faveur du climat.
Un café? Un décroissant tout chaud?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
Alors il nous faut rendre les actions en faveur du climat plus sociales, plus simples, plus solidaires, à l'aide d'histoires et de signaux. Insister sur l'urgence en adressant ces récits à nos amis, notre communauté, notre réseau social. Nous pouvons rendre les choix respectueux de l'environnement plus simple à faire dans notre vie quotidienne. Par exemple, choisir pour plat du jour dans les cantines scolaires un plat d'origine végétale. Nous pouvons envisager l'action climatique sous un angle solidaire, voir cette action comme une chance d'améliorer notre santé. Et plutôt qu'imaginer un désastre sans fin, nous pouvons développer des histoires plus vivantes sur la destination que nous souhaitons emprunter. Enfin, pour garder notre motivation intacte, nous avons besoin de retours, c'est-à-dire de signaux fréquents et sur mesure qui nous indiquent si oui ou non nous progressons en tant que société. on a un jour soumis à l'éco-philosophe norvégien Arne Næss cette question. Quel est le meilleur militantisme environnemental ? Vaut-il mieux s'opposer à l'industrie ou collaborer avec elle afin de parvenir au changement systémique ? Il a répondu : nous avons besoin de gens sur un large front et chacun doit percevoir sa propre tâche comme cruciale. Il entendait ainsi signifier qu'une variété d'approches est nécessaire afin de parvenir au progrès. Nous avons besoin des scientifiques, des économistes, des sociologues et des ingénieurs. Nous avons besoin de gens dans la finance et l'administration, particulièrement ceux qui ont un réseau international, pour nous aider à investir dans l'économie de demain. Nous avons également besoin de designers, d'électriciens, d'architectes et d'équipes de maintenance des éoliennes. Nous avons besoin d'écologistes, de paysans adeptes de l'agriculture régénératrice et de grands chefs véganes. Nous avons besoin de musiciens, de sculpteurs, d'influenceurs, d'artistes. Quand une majorité aura rejoint le mouvement, les politiciens suivront. Parce que cela signifiera qu'en agissant de façon ambitieuse en faveur du climat, ils peuvent gagner des voix et pas en perdre. Alors se plaindre que personne ne prend la crise au sérieux ou qu'il ne se passe rien n'est pas très utile pour accélérer le changement systémique. Ainsi que l'a montré une étude mondiale du G20, 3/4 de la population sont bel et bien profondément inquiets. Et en réalité, des gens partout dans le monde relèvent déjà le défi. Tout autour de nous, des hommes et des femmes accélèrent le mouvement. La plupart du temps, ils sont ignorés des médias, tout comme la crise climatique elle-même. Mais nous devrions tous parler plus souvent de ces héros et de ces héroïnes, petits et grands, qui ont un temps d'avance. Bien sûr, il y a des tas de bonnes raisons de ressentir de la peur, du chagrin, de la colère. Lorsque les perturbations climatiques font apparaître ces sentiments dans notre cœur, nous devons les accueillir. Nous devrions les partager, écouter sans juger, sans perdre patience. Une fois cette étape franchie, parfois survient un changement de l'âme. En acceptant les émotions à l'intérieur de nous, nous retrouvons l'énergie d'agir à nouveau. Et il existe de bonnes raisons aussi de ressentir une joie profonde, de l'enthousiasme, de la gratitude. Nous sommes toujours là, et avec nous les arbres, les abeilles et autres merveilles du monde. Toutes les 2 secondes, nous inspirons l'air vibrant, vivant. Remarquez le vent, remarquez la vie dans votre respiration, sa persistance. Et bien voilà, LDTC, c'est terminé pour aujourd'hui. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain sur les bonnes ondes de Radio B. En attendant, on écoute Mes aïeux, le déni de l'évidence.
danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Mais pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses. Faut se rendre à l'évidence.